Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et vous chatouille de l'autre. Cocktail info, humour détonnant mais toujours parfaitement dosé. Sauf, évidemment, lorsqu'une journaliste incarnant d'ordinaire le sérieux débarque un beau matin avec la voix de Jane Birkin qui aurait bu du White Spirit. Oui, hier, Céline Kallmann, présentatrice émérite du journal de 6h30, avait plus qu'un chat, une panthère de Sibérie dans la gorge. Un spectacle qui a inspiré la compassion à certains et des sentiments un peu différents à d'autres.
Dans le massif des Bauges, au-dessus de Chambéry, le reportage de Rémi Pierre. La patronne du Rassemblement National a fait un appel du pied au dirigeant populiste hongrois Viktor Orban.
Ça te donne une voix, ça m'excite presque.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin revient sur une fake news historique. La capitulation de l'Allemagne a d'abord été signée à Reims le 7 mai 1945 et non le 8.
Merci
Attention.
D'écouter Europe 1 en ce mardi 7 mai. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 7 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Des températures encore négatives cette nuit, surtout dans l'est du pays et aussi dans le centre où le gel a provoqué des dégâts. Les agriculteurs et les viticulteurs sont restés mobilisés. Les annonces d'Emmanuel Macron après le rapport catastrophique des experts de l'ONU sur la crise de la biodiversité, la lutte contre le gaspillage, mais aussi bientôt une décision sur le projet d'extraction de la montagne d'or en Guyane. Et puis on devrait connaître demain le prénom du Royal Baby. L'épouse du prince Harry a accouché hier de son premier enfant, un petit garçon.
Europe 1.
Encore un froid glacial pour un mois de mai avec un mercure négatif à Romorantin, par exemple dans le Loir-et-Cher où il a fait près de moins 4 degrés la nuit dernière, des températures qui ont provoqué le gel. Situation préoccupante pour l'agriculture et précisément le vignoble. Même si les dégâts sont moins importants que prévu, il faut rester vigilant. Hélène Terzian.
Cette fois, le pire a été évité parce que les viticulteurs ont pris leurs précautions. Hier matin, sur notre antenne, le producteur champenois Jean-Christophe Gremillet nous confiait son inquiétude, mais grâce aux petites éoliennes installées dans ses parcelles pour éviter que les feuilles soient statiques, sa récolte semble sauvée.
Pour l'instant, pas vraiment de dégâts apparents. Par contre, il faut attendre quelques jours pour voir comment la plante va évoluer. Si vraiment il y avait une mauvaise surprise, ça se verrait maintenant. Les feuilles s'enrouleraient sur elles-mêmes, grisonnantes et grillées, ce qui n'est pas le cas.
Inquiétude partiellement levée, donc, pour les viticulteurs qui ont recours à des méthodes très artisanales, allumer des bougies ou des ballots de paille pour créer un écran de fumée et protéger leurs vignes, ou parfois bien plus sophistiqués avec des hélicoptères qui survolent les parcelles pour rabattre l'air le plus chaud au sol. Autant de techniques déployées parce qu'ils redoutent les seins de glace à partir de samedi et que le gel a une incidence sur le goût du vin, explique Nicolas Prince, viticulteur à Saint-Émilion.
On va avoir des raisins qui vont être à plusieurs stades de maturité et ça va poser des problèmes de récolte. Donc pour pallier à ça, on va pouvoir récolter à la main pour récolter vraiment au moment optimum et éviter des récoltes en un seul passage qui amènerait trop d'hétérogénéité dans ces cas de gel.
Et même si la qualité est préservée, la quantité, elle, ne l'est pas.
Hélène Terzian.
Une série d'actions pour protéger la biodiversité, dont une lutte accrue contre le gaspillage et la production de déchets plastiques.
Emmanuel Macron a fait toute une batterie d'annonces hier après le rapport catastrophique des experts de l'ONU sur la biodiversité. Plusieurs objectifs: lutter encore plus activement contre le gaspillage en changeant le mode de production agricole, mais aussi une extension des aires maritimes et terrestres protégées, autrement dit moins de construction. Enfin, concernant la montagne d'or, un projet de mine à ciel ouvert situé en Guyane, le chef de l'État a affirmé que le projet n'était pas compatible avec toutes les annonces du jour. Un conseil va se tenir en Guyane pour trancher lors d'Autriche.
Emmanuel Macron a longtemps été plutôt favorable au projet. Il manifeste aujourd'hui des réserves, tout comme son ministre de l'Environnement, François de Rugy, qui disait il y a 2 semaines qu'en l'état, ce projet ne rentrait pas dans les standards environnementaux de la France. Dans le cas de la Montagne d'Or, les associations environnementales martèlent que pour extraire l'or, il faut utiliser du cyanure, une substance extrêmement toxique. Et puis il y a le problème de la déforestation. Pour construire cette mine, on doit déboiser l'équivalent de 800 terrains de football au milieu de la forêt amazonienne. Les défenseurs du projet assurent que cette mine d'or créerait 3000 emplois dans un contexte où un quart de la population guyanaise est au chômage. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, va se rendre sur place au mois de juin pour rencontrer les acteurs, notamment les 2 sociétés russes et canadiennes qui portent le projet, et la décision définitive doit être rendue d'ici à l'été.
Lors d'Autriche, 4 hommes condamnés hier à 2 ans de prison, dont un en ferme. Ils étaient jugés pour avoir incendié une zone de péage à Narbonne le 15 décembre dernier en marge d'un rassemblement de gilets jaunes. Ils devront également payer près de 300 000 euros à Vinci Autoroute. De nouvelles analyses viennent de montrer la présence du sang de Sophie Le Tan sur une paire de chaussures de Jean-Marc Reiser, le principal suspect du meurtre de la jeune femme portée disparue depuis le mois de septembre à Strasbourg.
6 pompiers de Paris accusés de viol en réunion ont été placés sous le statut de témoin assisté.
Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi dans une caserne du 14e arrondissement. Une jeune femme affirme avoir été violée par plusieurs pompiers cette nuit-là. À l'issue de leur interrogatoire, ces derniers ont été présentés à un juge qui ne les a pas mis en examen, car selon lui, deux versions s'affrontent. Guillaume Biais.
La seule certitude, c'est que cette jeune étudiante norvégienne a bien eu des relations sexuelles avec plusieurs pompiers cette nuit-là. Mais s'agit-il d'une affaire de viol ? Pour le juge d'instruction, il n'y a pas, à ce stade, d'indice grave ou concordant qui permettrait de mettre en examen les 6 militaires. Le magistrat les a donc placés sous le statut de témoin assisté, estimant qu'ils sont impliqués dans cette affaire, mais qu'il n'y a pas pour l'instant de charge retenue contre eux. Cela ne veut pas dire que l'enquête est terminée, au contraire, le juge va justement s'attacher désormais à démêler les différentes versions. D'un côté, celle de la jeune femme, elle a mis hors de cause le premier pompier rencontré dans un bar avec qui elle a eu une relation tout à fait consentie, dit-elle. Mais elle assure que ce n'était pas le cas avec les autres pompiers ensuite. Or, les militaires, eux, soutiennent qu'elle était parfaitement d'accord. Deux versions d'une même fin de nuit, dans l'obscurité d'une chambre de caserne et sur fond d'alcool pour la plaignante et certains protagonistes.
Guillaume Biais, deux policiers municipaux de Marseille mis en examen après avoir grièvement blessé par balle un suspect qui refusait d'obtempérer. Les faits se sont déroulés le 28 avril sur un boulevard. La victime a cherché à s'enfuir au volant d'une voiture. Elle a été grièvement blessée par balle à la gorge et au bras.
I'm so excited, Céline. Après des jours et des jours d'attente et un suspense mais vraiment insoutenable, Meghan Markle et le prince Harry sont donc devenus parents.
Un petit garçon né hier, un bébé déjà à la 7e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Windsor. Toute la question maintenant, c'est évidemment de connaître le prénom. Il doit être annoncé demain et les spéculations vont bon train.
Eh oui, les parents vont-ils suivre les pronostics des bookmakers qui donnent en tête des prénoms comme Alexander, Arthur ou encore Charles, ou bien vont-ils continuer à rompre avec le protocole royal comme ils le font depuis des mois? Devant le château de Windsor, Tony, en tout cas, préférerait du classique.
Quelque chose de traditionnel, Henri, Arthur, ce serait joli, à l'ancienne. Il faut rester dans les traditions de la royauté. Et puis mon fils s'appelle Alexander, alors ce serait vraiment super.
On parle aussi d'un prénom américain, le pays de la maman, du bébé Meghan Markle. Mais finalement, peu importe, disent aussi certains, car l'essentiel est peut-être ailleurs dans cet heureux événement, en ces temps quelque peu troublés.
Avec le Brexit, les gens sont vraiment en colère, fâchés, perdus. Et je pense que tout ce qui peut les réconforter, même juste quelques jours, est une bonne chose. Tout comme le fait que ce bébé soit métis, ça rend les gens heureux de moderniser la famille royale, de faire tomber les barrières.
Et oui, outre le prénom, c'est aussi la photo, le visage de ce bébé que de nombreux Britanniques attendent désormais avec impatience. Certains dorment ici devant le palais depuis une semaine, rien que pour ça.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Windsor. Il a désormais sa médaille de la liberté. C'est la plus haute décoration civile des États-Unis. Tiger Woods s'est vu décerner la prestigieuse récompense par Donald Trump. Vos succès remarquables sur les parcours de golf, votre triomphe sur l'adversité physique, votre volonté implacable de gagner, gagner, gagner. Ces qualités incarnent l'esprit américain. Celui qui repousse les limites, a déclaré le président américain.
Vous auriez dû être américaine, Céline. Vous aussi, vous êtes là malgré tout. Contre l'adversité physique de votre voix, c'est magnifique. C'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, dans votre malheur, sachez qu'il y a pire que d'avoir un chat dans la gorge. Hier, Nico savait bien plus terrible et beaucoup plus rare.
Une chèvre dans la gorge.
Et une chèvre dans la gorge. Fatalement, Céline qui toussait, Nico qui toussait. Oh, il n'en fallait pas plus à certains collègues indélicates comme Hélène Zelani pour oser la question.
Mais t'as fait un truc avec Céline Kallmann parce qu'elle non plus, elle a plus de voix.
Ah, le show business. Ça me dégoûte.
Oh là là. Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire. Ce matin, Fabrice Delmeda lève un lièvre historique. Un animal de plus. La capitulation de l'Allemagne a d'abord été signée à Reims le 7 mai 45. Et non le 8, Céline. Vous ne le saviez pas, ça.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de faire un point sur la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et alors l'abri de piscine, heureusement qu'il y a un abri parce qu'on n'est pas encore dans la piscine. Le soleil est voilé ce matin.
N'importe quoi. Oui, puis il va pleuvoir.
Je vous en prie, comment ça n'importe quoi? C'est un lancement astucieux.
Pas dans la piscine. Pardon. Oui, c'est vrai, alors le soleil est voilé. Avec des éclaircies un petit peu plus nombreuses au nord de la Seine et pour la région PACA ce matin, ciel bien voilé pour les autres.
Vous voulez que je fasse la météo, Céline ?
Je suis dans la piscine. Hey ! Alors bon, donc...
Cette fille est dingue.
Ciel est voilé pour les autres. Un peu plus de nuages pour la Bretagne, où là on va avoir un petit peu de pluie. Et puis cet après-midi, justement, ces averses, elles vont s'étendre jusqu'à la Gironde. C'est la perturbation pluvieuse qu'on attendait et qui va traverser la France dans la nuit. La Corse va conserver son soleil, le ciel va se voiler un petit peu plus pour les autres. Les températures, ça c'est la bonne nouvelle, elles augmentent un petit peu cet après-midi. 14 à 23 degrés du nord au sud, 14 à Metz, 17 à Paris, 23 à Auch. Ce matin, en revanche, on se couvre, les températures sont toujours très froides. Elles vont rester d'ailleurs toute la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, même si ça va augmenter de quelques degrés. Ce matin, 1 à 5 degrés, c'est la moyenne.
Merci Céline. Et Varoc.
À l'occasion de l'anniversaire de Gueluc, ce formidable dessinateur de bande dessinée, notamment du chat, on vous demande justement si vous êtes plutôt chien ou chat, ou les deux, ou aucun. Et depuis ce matin, 5h, vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Jérémy qui nous dit « Alors nous, à la maison, on a un chien et trois chats, Jedi, Lily, Olympe et Obi-Wan. Et tout le monde s'entend à merveille. » Et je pense qu'ils ont même plus que ça comme animaux. Je crois qu'ils ont aussi des animaux de basse-cour. Et puis, Corsico nous dit, il est plutôt équipe chien. Un chat te juge, un chien te fait la fête. Voilà ce qu'il nous dit. Vous continuez à réagir
Confucius,
sur Twitter.
Je crois.
Ouais, c'est possible.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il a une manière de parler un peu déroutante, liée certainement au fait qu'il a eu enfant une nanny écossaise. Mais malgré cette tendance étrange à mettre l'adjectif avant le nom, on aime quand même Jérôme Lacroix.
Richard Gasquet est de retour aujourd'hui au relevé tournoi sur terre battue de Madrid.
C'est quoi le relevé tournoi ?
C'est un tournoi qui est relevé.
Voici le journaliste très bon pour le Desport Journal, Jérôme Lacroix.
L'explication, en plus, elle est limpide. Hein. C'est quoi relevé tournoi ? Un tournoi relevé, ok.
À la une ce matin, Jérôme, tapis rouge sur terre battue.
L'émulation dans les allées du tournoi de tennis de Madrid. Ça, c'est quand Roger Federer se déplace sur le chemin de l'entraînement. Des dizaines de spectateurs contenus par des barrières, des autographes, des selfies. Il faut dire que c'est l'événement tennis de la semaine. Et oui, le retour sur terre battue du génial Suisse, 37 ans. 3 ans qu'il ne s'était plus engagé sur cette surface. Mais cette année, il a décidé de participer à Roland-Garros à la fin du mois. Alors, il se teste cette semaine au tournoi de Madrid, il entre en lice ce soir et Federer, forcément, il a peu de repères sur la surface, alors il préfère ne pas se fixer d'objectifs.
J'ai pas de grandes attentes, mais en même temps, je sais que les choses sont possibles. Je veux dire que Madrid, ça va toujours très vite, surtout avec l'altitude ici. Donc oui, je suis intrigué de découvrir ça moi-même, mais ça s'est bien passé jusqu'ici.
Et l'entrée en lice ce soir, ce sera contre... un Français, ce grand retour, Richard Gasquet, un Français sans grande attente, hein, parce qu'il faisait hier son retour à la compétition, lui, après 6 mois de blessure. Il a gagné difficilement contre un jeune Espagnol, mais il cherche surtout à Madrid à retrouver le goût du jeu. Également aujourd'hui en lice, Djokovic, Herbert, Pouille ou encore Garcia. Hier, qualification pour le deuxième tour de Monfils, mais élimination de Parmentier et Mladenovic côté dame.
La Ligue des champions de foot et chacune de ses sorties est un petit événement tant il est énorme cette saison.
Lionel Messi, le bon génie de Barcelone, attendu ce soir à Liverpool. Demi-finale retour à Anfield, succès espagnol 3-0 à l'aller, l'Argentin avait inscrit un doublé. Côté anglais, forfait de Mohamed Salah, la star égyptienne, après un choc à la tête au dernier match samedi dernier, Liverpool-Barcelone, 21h.
Et puis Jérôme, dans un mois tout pile, nous serons à l'heure du foot féminin.
La Coupe du Monde en France, début le 7 juin, France-Corée du Sud, match d'ouverture et entrée en lice des Bleus. Les tribunes seront pleines au Parc des Princes, stade dans lequel l'équipe de France féminine n'a plus joué depuis 43 ans. Ces Françaises visent le titre, toutes portées à l'image de la milieu Amel Majri par une ambition légitime.
Ah ouais, on y pense. Personnellement, moi j'y pense tout le temps, hein, pourquoi pas, et même j'espère, ouais, c'est l'objectif, on le sait. Mais bon, le chemin va être long et il faudra être présente le jour J. Il y a un peu d'excitation, il y a un peu de pression. Après, on sait que c'est le jeu, les jours vont avancer et qu'on aura hâte que ça commence.
Recueilli par Simon Rubin, qui vous donne rendez-vous à 7h15 tout à l'heure pour un Europe 1 va plus loin, foot féminin. Et demain, début de la préparation des Bleus, stage à Perros-Guirec en Bretagne, avant le premier match de test de préparation France-Thaïlande le 26 mai à Orléans.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Confirmation que l'histoire avec un grand H retiendra leur nom. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann font leur entrée dans le prochain Robert Illustré, selon le journal Le Parisien aujourd'hui en France, sorti jeudi de la semaine prochaine.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et à présent, Eva, si je vous dis Fabrice Dalméda...
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
C'est notre chroniqueur histoire, c'est pas raconté.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Demain, c'est jour férié, nous serons le 8 mai, jour de commémoration de la victoire de 1945. Mais ce matin, vous nous dites, Fabrice, que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas achevée le 8 mai 45, mais le 7.
Ben oui.
Allons donc.
Bah oui, bah l'armée allemande s'était effondrée. Plus d'1,5 million de soldats étaient capturés sur le front de l'Ouest pour le seul mois d'avril. Le dernier verrou à l'Est a cédé après 82 jours de siège le 6 mai. Donc pour l'amiral Dönitz, le dernier chef de l'État nazi, il fallait trouver la paix. C'est donc ce même 6 mai, vers 17h, que son représentant, le général Alfred Jodl, est arrivé à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées, dirigé par le général américain Eisenhower.
Comment se sont déroulées les négociations?
Alors Jodl a demandé une séparation pour la reddition seulement du front de l'Ouest. Mais Eisenhower a refusé. Il veut une capitulation totale. Jodl a alors contacté le chef de l'armée allemande, le maréchal Keitel, qui a accepté. Pendant des heures, on a discuté des mots de la reddition. Les Américains, habilement, ont fixé l'arrêt des combats le 8 mai à 23h01, pour permettre à des militaires ou des ingénieurs allemands de passer derrière leur ligne et de ne pas être faits prisonniers par l'armée rouge. L'attaché militaire soviétique auprès du commandement allié, le général Ivan Soussoparov, qui était présent, n'a pas pu contacter Moscou. Il n'a pas compris l'astuce et donc, avec le général français François Sevez, qui était l'adjoint du chef d'état-major français, il a apporté sa caution, signé le document, qui donc est devenu officiel à 2h41 dans la nuit du 7 mai.
Alors pourquoi fait-on la capitulation allemande le 8 mai?
D'abord parce que la reddition a été partout annoncée le 8 mai. Ensuite parce que c'est le jour d'arrêt des combats. Enfin parce que Staline, le dictateur soviétique, était furieux de la ruse américaine. Et il voulait que symboliquement, la capitulation allemande soit signée sur le front de l'Est. Il a donc demandé aux alliés de refaire une signature le 8 mai à Berlin, au quartier général de l'armée rouge. Les alliés ont accepté car le texte est absolument identique à celui de Reims. Et le 8 mai, à 23h16, de grands représentants des vainqueurs et des Allemands ont signé de nouveau un acte de reddition alors que depuis 23h01, les combats avaient cessé. Enfin, dans tous les cas, le 7, le 8 ou le 9 mai, pour les soviétiques à cause du décalage horaire, eh bien nous célébrons la victoire contre le totalitarisme nazi.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la décryptent dans parfois ce qu'elle a de plus dramatique. Manque de moyens, manque de respect, déconsidération pour leur profession. Depuis le début de l'année, 29 policiers se sont donné la mort. À 6h20, nous accueillons Frédéric Ploquin, auteur d'un documentaire choc, Police à bout de souffle, diffusé ce soir sur France 2, documentaire édifiant dans lequel 7 policiers ont accepté de raconter à visage découvert la réalité de leur métier.
Bon réveil sur Europe 1, il est 6h17. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
100% de plastique recyclé en 2025, réorientation des aides de la PAC, des aires protégées étendues. Emmanuel Macron a mis en avant plusieurs mesures en faveur de la biodiversité après un rapport alarmant de l'ONU. À 20 jours des européennes, CNews Europe 1 diffuse ce soir un second débat qui va réunir les responsables des 6 partis sur le thème « Demain, quelle France, dans quelle Europe ?» Débat qui sera animé par Laurence Ferrari et Mathieu Béliard à partir de 20h45. Enfin, en football, Liverpool doit rattraper les 3 buts encaissés à l'aller à Barcelone, demi-finale. Retour de Ligue des Champions ce soir.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mardi 7 mai. Dans l'actualité également, hélas, le malaise d'une profession. Manque de moyens, manque de respect pour des hommes et des femmes qui partent parfois au travail, la peur au ventre. Depuis le début de l'année, 29 policiers se sont donné la mort. Une situation dramatique dans un contexte complexe pour les forces de l'ordre qui, plus est, régulièrement accusées de violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes journaliste et auteur d'un documentaire tout à fait édifiant, diffusé ce soir sur France 2 à 23h10. Un film dans lequel 7 policiers ont accepté de raconter à visage découvert la réalité de leur métier.
Quand je suis rentré dans la police, on n'était pas confronté à cette violence. Un policier qui vous dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur.
J'ai aucune explication qu'on puisse laisser la police nationale travailler dans des conditions comme ça. C'est énorme à quel point on nous laisse tomber, quoi.
Alors, ces professionnels de tout grade ont décidé de passer outre leur devoir de réserve. D'abord, c'est la première question qu'on se pose en visionnant le documentaire. Comment vous les avez convaincus de parler ? La situation est à ce point dramatique, pesante, qu'ils ont besoin de s'exprimer ?
Si vous voulez, l'un des problèmes principaux des policiers, justement, c'est celui de la parole. La parole dans la police est interdite. Ils n'ont pas. Ils ont une espèce de devoir de réserve qui fait que bon, les syndicats parlent à leur place, les ministres parlent à leur place, mais eux-mêmes, ils accumulent comme ça au fil des mois, des ans, des nuits passées sur le terrain, des choses à dire. Et en fait, ils ne peuvent plus aujourd'hui les dire à personne parce que ce qui s'est passé au fil de ces 20-30 dernières années, c'est une sorte de désocialisation du policier, c'est-à-dire que il s'est un peu coupé, le policier, du monde, de la vie, de ses même de ses amis peu à peu, parce que de ces sujets il ne peut parler à personne. D'abord personne ne le croit. Dans les dîners en ville, on le croit pas, ou bien on le croit pas, ou bien on le prend à partie. Donc tout ça fait, au bout du compte, une espèce de coupure qui fait que le policier se retrouve tout seul avec ses problèmes. Et puis là-dessus, il y a eu évidemment la vague terroriste qui s'est rajoutée, qui fait qu'en plus, il est rentré chez lui avec la peur au ventre, il a commencé à avoir peur de ses voisins. Je ne voudrais pas en rajouter là-dessus, mais psychologiquement, au bout du compte, ça fait quelqu'un qui est un peu isolé du monde.
Justement, je me faisais cette réflexion en voyant votre reportage. À l'époque, justement, des attentats, au moment post-attentat, on va dire, on se souvient de gens dans la rue qui saluaient les policiers, qui les embrassaient parfois, qui les applaudissaient. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fait un virage à 180 degrés par rapport à ça.
Oui et non, parce que si vous regardez les sondages comme ça qui sont faits régulièrement, vous apercevez que 70-80% des Français aiment entre guillemets leur police.
Leur police.
Là, c'est pas le sujet du film, c'est pas ni une déclaration d'amour, ni de. C'est plutôt une analyse de la haine anti-flic qui s'est développée
qui, elle,
dans 10-20% de la population. Il ne faut pas non plus exagérer.
C'est une fraction infime de la population, mais qui fait très mal aux policiers.
Mais c'est cette partie-là qui est en face d'eux. C'est-à-dire que le policier, il est soit dans les quartiers, dans les cités où il se prend des pavés sur la gueule et des machines à laver qui tombent des toits tous les samedis, mais ça, on n'en parle pas très peu parce que ça se passe loin des médias. Soit c'est ça, soit il est dans la rue, là il y a un contexte social actuellement difficile, il est dans la rue et il se prend d'autres sortes de projectiles. Et une autre haine qui est une haine de la rue qui n'était pas forcément prévue et attendue, soit, et ça c'est la troisième couche qui se greffe là-dessus, depuis 2015 on en a quand même un certain nombre qui se sont fait tout simplement abattre comme des lapins dans la rue par les terroristes. Donc ça commence à faire beaucoup de haine à accumuler, ce qui ne signifie pas qu'il y a une rupture avec les Français, parce qu'au contraire, tous les sondages le montrent, les Français sont plutôt contents de leur police.
Dans votre reportage, il y a parmi les témoignages celui de Maggie Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère, alors que vous finissiez le montage du documentaire. Elle a mis fin à ses jours avec son arme de service en novembre 2018. Est-ce que vous êtes posé la question de garder ce témoignage ? Il est forcément bouleversant. Vous êtes dit qu'il est trop représentatif pour le couper.
Bon, d'abord, c'est vrai que Maggie, c'est la seule femme qui est dans ce documentaire. On a 7 policiers qui ont accepté de nous parler les yeux dans les yeux, sans foulard, sans se dissimuler sous leur nom, ce qui est quand même déjà énorme, ce qui signifie, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils avaient beaucoup à dire. On se retrouve à la fin du montage du film, donc à l'automne dernier, le film était entièrement tourné, le film était monté, les choix avaient été faits, on se retrouve avec ce drame qui est que Maggie Biskupski, qui est quand même la femme qui avait pris la tête un peu des policiers en colère en novembre 2016, je le rappelle, après un événement dramatique dans l'Essonne où des policiers avaient été pris à partie par des cocktails Molotov. Donc on se retrouve avec cette présence très forte. On a au contraire décidé de ne rien changer. C'est-à-dire que dans ce film, on n'en a pas fait on n'a pas transformé le film pour en faire une espèce d'héroïne. D'abord, je crois que ça aurait pas plu au sien, à son père, qui est un modeste Ardennais, à qui j'ai, à ce moment-là, quand même pris la peine de montrer le film. À ce moment-là, juste pour voir si lui validait nos options. Et ce qu'il m'a dit m'a encouragé dans le choix que nous avions fait. Il m'a dit, si vous aviez fait de Maggie le personnage principal de ce film, si vous aviez fait quelque chose, j'aurais dit non. Et là, au contraire, elle est un policier parmi les autres. Et elle porte avec une passion qui est quand même énorme. Et d'ailleurs, qui dit toute la fragilité de cette femme aussi. Je veux dire, c'est qu'elle a fait son métier avec passion, elle a défendu les siens avec passion. Donc on a laissé Maggie là où elle était dans le film et on n'a pas retranché un mot de ce qu'elle disait. On a juste ajouté, effectivement, pour que le téléspectateur le sache, qu'elle s'était donné la mort à un moment donné.
Le problème peut-être de ces gens qui prennent les policiers à partie, c'est qu'ils les voient comme un symbole, pas comme des individus. On a tendance à les voir comme des robocops, alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont qui ont peur aussi parfois, qui vivent avec cette peur quand ils vont au travail, d'où parfois peut-être des réactions de défense par rapport à des agressions.
C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est pas un film sur la police, c'est un film sur les policiers. Et donc je suis vraiment allé à leur rencontre et j'ai voulu écouter ces peurs. Et moi, ce qui m'a frappé dans les entretiens, donc on en a 7, il y en a au moins 3 dans les entretiens qui à un moment donné ont eu les larmes aux yeux.
Ah,
moi, ça m'a énormément frappé. C'est-à-dire que je me suis dit que ces hommes et ces femmes étaient effectivement les dépositaires de quelque part de toutes les misères du monde qui ramassent dans la rue toutes les nuits, tous les jours, de tous les maux de notre société, et qu'ils étaient bien seuls au front face à tous ces maux, puisqu'ils se sentent globalement lâchés ou instrumentalisés par les politiques, et assez peu soutenus en interne par des chefs qui font carrière. Effectivement, au final, ils sont avec ça sur les épaules. Et il faut bien que ça sorte.
Il y a aussi un ras-le-bol des conditions de travail, il faut le dire, du rythme de travail. Il faut comprendre qu'un policier doit en général travailler 5 week-ends complets avant de s'en voir accorder un seul de repos. On imagine, par les temps qui courent, à quel point ça va être compliqué d'être présent en tant que conjoint, en tant que parent, dans ces conditions. Enfin, c'est vraiment un métier, on l'oublie, qui est extrêmement dur.
Oui, je voulais aussi m'interroger là-dessus, effectivement, c'est comment ils vivent, ce ne sont pas des robots en fait. On en a fait à un moment donné, on a cru que c'était des robocop. Je me souviens, sous Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, on les a surhabillés, on leur a mis des espèces de tenues comme ça. Mais derrière ces robots, effectivement, il y a des hommes, des femmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'on voit aujourd'hui, qu'on entende aujourd'hui les femmes des forces de l'ordre se manifester publiquement à ce point-là.
Une question quand même, Frédéric Ploquin, parce que les violences policières sont aussi une autre réalité des samedis de manifestation. Quel regard vous portez sur ces gestes qui sont régulièrement filmés, diffusés aussi sur les réseaux sociaux?
C'est vrai que le fait, par ailleurs, d'être aujourd'hui filmé en permanence par les téléphones portables des manifestants, je ne sais pas si vous regardez à chaque fois, regardez bien les images, vous verrez, vous avez des téléphones portables au-dessus, comme
partout,
si c'était un match
sûr,
de foot.
Oui.
Comme si, en fait, on avait des pseudo-reporteurs et des vrais reporters aussi, quelquefois, qui cherchaient l'image qui va faire mal, qui va buzzer, etc. Comme au football ou comme au spectacle, ce n'est pas un spectacle. Ce sont des gens qui défilent dans la rue pour exprimer leur malaise social d'un côté, de l'autre, des forces de l'ordre qui sont censées protéger les institutions de la République et les biens privés. Et au milieu, se sont glissés effectivement ces derniers temps, ça on l'a bien vu avec les gilets jaunes, des gens qui sont là pour autre chose que pour manifester, qui sont là pour casser, pour détruire. Et les policiers, leur boulot, c'est d'intervenir pour qu'ils ne le fassent pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Vous n'allez pas aller avec des matraques en guimauve face à des black blocs qui arrivent avec des espèces de banderoles renforcées, avec des genouillères, qui sont habillés comme les CRS. En fait, si vous regardez bien, moi je les ai regardés, ils sont habillés comme les forces de l'ordre et ils vont au combat, eux. Donc en face, vous ne pouvez pas dire aux policiers, maintenant, c'est guimauve et pourquoi pas des balles en pelote de laine que vous allez leur envoyer. Non mais dans ce cas, vous vous retrouvez le soir avec l'Arc de Triomphe, plus le Fouquet's, plus peut-être les pelouses de l'Élysée envahies, et vous dites quoi? Vous dites au pouvoir qu'il a été laxiste. Donc les forces de l'ordre dans cette situation, à ce moment-là, sont tout simplement les garantes de la République.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du film documentaire Police à bout de souffle, diffusé ce soir à 23h10 sur France 2. Merci.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du rayonnant David Doucan et puis la météo avec un ciel voilé et de la pluie qui arrive par l'ouest.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Oui, c'est l'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline. Du soleil aujourd'hui, mais pas pour tout le monde.
Oui, on va retrouver principalement des éclaircies au nord de la Seine ce matin et dans le sud-est. Pour les autres, le ciel sera déjà bien voilé et le sera de plus en plus au fil de la journée. Seule la Corse va conserver un ciel plus dégagé cet après-midi. Les températures sont toujours très fraîches ce matin et vont grimper quand même en cet après-midi, 14 à 23 degrés. La pluie arrive par l'ouest, on vous le disait hier, elle arrive ce matin par la pointe bretonne.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui certes chérit vos zygomatiques, mais vous promet un réveil guiré, mais qui sait aussi se mettre au garde à vous pour les grands événements politiques de notre temps. Eva, Céline, 7 mai 2019, 7 mai 2017, il y a 2 ans, Emmanuel Macron était élu président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire, Céline?
Bisous, bisous, Emmanuel Macron. Kissou, kissou.
Espérons que soient à la fois plus pondérés dans leur excitation et plus respectueux des institutions. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec ce matin au programme notamment des séances de coaching en vue à La République En Marche. En cas d'élection, Amélie de Montchalin recevra les eurodéputés français pour leur expliquer comment avoir de l'influence dans les institutions européennes.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30.
5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est le principe d'une langue vivante, elle s'enrichit, ubérisée, fachosphère, divulgachée. Notre spécialiste des lettres, Nicolas Caro, nous révèle les nouveaux mots du Petit Larousse édition 2020 dès le début de ce journal. Est-ce un virage vert ? Déclaration surprise d'Emmanuel Macron hier soir en faveur de l'environnement. Lutte accrue contre le gaspillage, espace protégé pour les animaux, annonce faite alors qu'un rapport de l'ONU constate qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Le procès de France Télécom, première journée hier, marqué par l'émotion des parties civiles. 35 salariés se sont suicidés entre 2008 et 2009. Compte rendu d'audience dans cette édition.
Europe 1.
Vous l'attendez, Mathieu, avec impatience.
Oh, que oui.
Parce que les mots sont vos amis, vos jouets même, parfois. Je parle du Petit Larousse, édition 2020. Il paraîtra le 21 mai prochain avec toute une série de nouveaux vocables parce que la langue française est une langue vivante. Et ici, à Europe 1, nous aimons les lettres. En particulier Nicolas Caro, notre critique littéraire, qui nous révèle les mots et expressions qui font leur entrée dans le dictionnaire.
Un seul critère compte, l'usage. Sur les milliers de nouveaux mots qui circulent déjà clandestinement dans la langue française, seuls 150 ont trouvé grâce aux yeux des équipes du Petit Larousse, en particulier ceux qui font écho à l'époque. Ainsi, adolescence ou antispécisme font leur entrée, survivalisme ou locavorisme, la licorne était déjà là, mais il y en aura une autre maintenant qui désigne une start-up non cotée dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. Bienvenue aussi à ubériser, charge mentale ou inclusif. Pour un mot, l'entrée dans le dictionnaire est une consécration, c'est même lui donner une existence légale, selon Bernard Pivot.
Un mot qui n'est pas dans les dictionnaires, c'est un mot, au fond, qui n'a pas de statut social, qui n'a pas de papier, c'est un sans-papier. Et puis, il entre dans le dictionnaire, d'un seul coup, il a une identité, il est respecté, il s'est imposé, et il est parmi tous les autres mots du dictionnaire.
Certains mots régionaux aussi sont adoubés par le Petit Larousse, comme bénaise, un mot de l'ouest de la France, définition, qui éprouve une sensation de bien-être, surtout après avoir bien mangé et bien bu, ou divulgaché en provenance du Québec, révélé un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction, un synonyme de spoiler en bon français.
Nicolas Caro pour Europe 1. Il y a aussi le mot crypto-monnaie qui fait son entrée dans le Petit Larousse. Vous connaissez, Mathieu?
Bah vous avez beaucoup investi, donc je le connais, vous m'en avez parlé.
Il y a eu un moment, une mode, où tout le monde essayait de faire fortune avec les crypto-monnaies. Ça n'a pas réussi à tout le monde. Un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Ce sont des experts scientifiques de l'ONU qui le disent. Ils étaient reçus hier à l'Élysée et Emmanuel Macron a pris la parole. Plusieurs annonces en faveur de la biodiversité, une lutte accrue contre le gaspillage, une extension des espaces protégés pour les animaux et plus globalement un appel à changer nos habitudes. On écoute le président de la République.
L'interpellation qui nous est faite par les experts qui viennent de remettre leur rapport, c'est très profondément de changer notre organisation mondiale. C'est de changer notre manière de produire, de nous organiser. Et le réchauffement climatique, comme la biodiversité, impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués, et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises.
Le chef de l'État qui fête par ailleurs aujourd'hui les 2 ans de son élection depuis 2017. Une année faste, une autre plus chaotique. Quel bilan en tirer alors que la mi-mandat approche? Comparaison avec les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, Jean-Rémy Baudeau.
2 ans après son élection, François Hollande avait déjà subi les affaires Cahuzac, Leonarda, la démission de son proche conseiller Aquilino Morel ou sa médiatique séparation amoureuse. Côté économie, la croissance 2014 restait sous 1% et le chômage semblait ne pas vouloir repasser sous la barre des 10. De son côté, 5 ans avant, Nicolas Sarkozy était déjà empêtré dans la crise financière, le pays sombrait dans la récession et la dette publique explosait vite et fortement. Une seule certitude pour nos 3 derniers présidents, leur popularité, elle a chuté. Ils sont tous les 3 partis au-dessus de 60%. Et après 2 ans d'exercice, Nicolas Sarkozy restait le plus populaire avec environ 40% d'opinions favorables, contre 29 actuellement pour Emmanuel Macron et 18 à la même époque pour François Hollande.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et puis ne ratez pas ce soir 20h45 sur Europe 1 et CNews le nouveau grand débat des élections européennes. Plusieurs chefs de parti et têtes de liste, Florian Philippot, Nathalie Arthaud, Jean-Christophe Lagarde et d'autres croiseront le fer sur notre antenne. Les 2 journalistes de Reuters qui étaient détenus en Birmanie ont été libérés. Ils avaient été condamnés à 7 ans de prison après avoir enquêté sur le massacre de musulmans Rohingyas. La pression internationale sur le gouvernement d'Aung San Suu Kyi a donc fini par payer après tout de même 500
300 jours de détention.
À suivre dans ce journal, le procès France Télécom, 35 suicides entre 2008 et 2009. Première journée d'audience marquée hier par l'émotion des parties civiles. À tout de suite.
Il est 6h35, bon réveil sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le procès France Télécom a commencé hier.
Oui, sur le banc des accusés, plusieurs dirigeants du groupe France Télécom, aujourd'hui devenu Orange. Entre 2008 et 2009, l'ancien PDG met en place un plan de restructuration et de réduction du personnel. 35 salariés se sont suicidés. Les dirigeants doivent répondre du chef de harcèlement moral. La première journée d'audience a été marquée hier par l'émotion des parties civiles. Chloé Triomphe.
Toutes les victimes ou leurs familles n'avaient pas fait le déplacement pour ce premier jour d'un procès prévu pour durer 2 mois où elles auront l'occasion de témoigner. Mais pour celles qui ont assisté à cette première audience consacrée à l'organisation et à la procédure, le face-à-face avec les 7 cadres dirigeants dont l'emblématique ex-PDG Didier Lombard restera comme un moment d'une particulière intensité, comme pour Béatrice Panier qui a fait une tentative de suicide il y a 7 ans dans les locaux de France Télécom.
J'ai vécu un moment fort parce que j'ai pu voir Didier Lombard à 1 mètre de moi. Et je peux vous dire que quand je suis repartie, j'étais en larmes. Et là, au moment de partir, je me suis plongée les yeux dans les yeux. Et là, j'ai senti quand même que le fait de me voir repartir en larmes, j'ai senti comme un petit soupçon d'émotion.
Les prévenus ont donc eu une première idée concrète du défilé de souffrance auquel ils vont devoir assister. Ils pourraient dès cet après-midi prendre la parole et notamment Didier Lombard qui conteste intégralement les accusations de harcèlement moral organisé dont il fait l'objet.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe. Parlons maintenant des vacances puisqu'en réalité vous ne pensez qu'à cela Mathieu. Sachez que selon les informations d'Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1, les Français prévoient de se faire plaisir et de voyager cet été.
Les Français ont prévu de partir en vacances. Les intentions de vacances pour cet été progressent de 8% selon les agences de voyage. Elles sont les premières à être surprises par cette tendance. Elles parlent d'une hausse qui paraît anormale. Et pourtant, on semble bien prévoir de partir parce que les réservations pour le moment sont aussi très bien orientées. Elles sont en hausse de 9% par rapport à l'an dernier. Alors il y a une raison, l'an passé, le mois de juillet a été très mauvais. On est resté devant nos télés pour vibrer devant la victoire des Bleus au Mondial de foot. Mais pour Jean-Pierre Masse, le patron des entreprises du voyage, une autre raison explique notre envie de vacances.
Le climat politique et économique un petit peu tendu, un petit peu incertain en France, donne probablement envie d'aller prendre de l'oxygène.
En revanche, côté destination, ce n'est pas très original. Espagne, Grèce et Italie sont très recherchés. La Tunisie, l'Égypte et la Turquie confirment aussi leur grand retour. Un peu plus loin, les USA et la République dominicaine intéressent aussi. En revanche, petite baisse attendue sur l'Asie.
Emmanuel Duteil pour Europe 1. Les fans de la famille royale britannique sont à cran. Nous ne connaissons pas encore le prénom du royal baby. Le suspense doit prendre fin demain. Je vous rappelle que Meghan Markle a donné naissance hier à un petit garçon, 3,3 kg. Le papa, le prince Harry, est apparu ravi devant les caméras du monde entier. Football, match retour, demi-finale de la Ligue des Champions. Liverpool-Barcelone ce soir. Les Catalans ont un pied en finale après le 3-0 du match aller. L'autre demi-finale retour opposera demain l'Ajax d'Amsterdam à Tottenham. À l'aller, les Hollandais menaient 1-0.
Merci, c'était le journal de David Doucan, un journaliste qui place l'info avant tout. Sa règle, ne jamais relâcher sa concentration, même durant la diffusion d'un reportage.
Ça va ta femme ?
Ouais, ça va mieux.
Elle est en forme ?
Non, elle n'est pas en forme. Elle a mal au dos maintenant. Bon, attendez, parce qu'il faut quand même présenter le machin.
David Doucan pourrait vous écouter pendant des heures. Pendant des heures. Mais bon.
Si vous pouviez avoir juste l'extrême gentillesse de laisser ma femme en dehors de ça.
Oui, oh bon, je vais pas diffuser le pire. Vous pourrez me remercier au lieu de m'engueuler.
Je ne vous cache pas que j'ai eu peur.
Oui, je sais. J'ai vu que vous êtes venu tout rouge. Dans le... Heureusement, j'ai censuré moi-même. Il faut quand même que je présente machin-là, la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
La météo, c'est avec vous, Céline Dacosta. Une journée encore, un soleil voilé aujourd'hui, malheureusement.
Un soleil voilé.
Mais très voilé.
Oui, un petit peu partout. Il y aura un petit peu plus de soleil au nord de la Seine et puis également dans le sud-est.
Au revoir.
On l'embrasse, votre femme. Et donc du soleil qui va juste résister sur la Corse cet après-midi, puisque tout le monde aura un soleil voilé aujourd'hui.
et de la pluie qui va arriver par la pointe bretonne et ensuite de la Bretagne à la Gironde. On fait une petite tendance.
Voilà, les prochains jours.
Oui, parce que demain c'est férié, donc il y en a peut-être qui ont pris quelques jours. Eh bien, demain, ce jour férié se fera sous un ciel bien pluvieux, des averses soutenues même dans le centre-est. Ce sera orageux dans le nord-ouest avec un fort coup de vent en soirée de la Bretagne à la Vendée, puis en montant jusqu'en Normandie. Jeudi, vendredi et samedi, les perturbations pluvieuses là aussi vont s'enchaîner. On aura quand même au mieux tout ça quelques éclaircies et les températures vont rester fraîches le matin, mais beaucoup plus douce l'après-midi. Le retour au calme, a priori, est prévu pour dimanche, avec du soleil pour tout le monde.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, l'actu est une jungle dans laquelle il est bon de pouvoir compter sur des éclaireurs. Chaque matin, les trois fantastiques vous ouvrent la route. Aujourd'hui, on se penchera sur La République En Marche, qui prépare déjà l'après-élection européenne.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Ubérisé, fachosphère, divulgaché ou encore crypto-monnaie, 150 nouveaux mots font leur entrée dans le Petit Larousse, édition 2020. Emmanuel Macron amorce-t-il un virage vert ? Déclaration surprise hier soir en faveur de l'environnement, lutte accrue contre le gaspillage, espace protégé pour les animaux, annonce faite alors qu'un rapport de l'ONU constate qu'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Enfin, ne ratez pas ce soir, 20h45 sur Europe 1 et CNews, le nouveau grand débat des élections européennes. Plusieurs chefs de parti tête de liste, Florian Philippot, Nathalie Arthaud, Jean-Christophe Lagarde, Benoît Hamon et d'autres croiseront le fer sur notre antenne.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont comme les trois mâts d'un voilier qui aurait trois mâts. Voici les trois fantastiques. Mais il y a des jours, on est moins inspiré que d'autres. Eva Rock pour les médias. Axel de Tarlé pour l'économie. Cette semaine, Aurélie Herbemont pour la politique. Trois journalistes complémentaires et allergiques à la langue de bois. Alors, vraiment, je vous en conjure, restez. Organisez-vous mieux que Céline Dacosta qui s'éclipse toujours aux toilettes au moment de l'édito politique. C'est idiot, surtout hier.
Il était super.
Ouais, il avait l'air très bien. Ouais. J'ai entendu que la fin, mais.
Mais c'est vraiment. C'est dommage. La fin, c'est dommage. Bien, la fin. Restez avec nous, avec Aurélie Herbemont. On commence par la politique. Les européennes sont dans 19 jours. La France élira 79 représentants. Et selon vos informations, Aurélie, la secrétaire d'État aux Affaires européennes compte tous les recevoir dès qu'ils seront élus.
Effectivement, Amélie de Montchalin veut voir les députés européens début juin, et ce, quelle que soit leur couleur politique. Alors, un ministre des Affaires européennes qui noue des contacts avec la délégation, c'est assez classique. L'objectif d'Amélie de Montchalin, c'est d'en profiter pour expliquer aux eurodéputés comment travailler au Parlement pour avoir de l'influence, partant du principe que les eurodéputés allemands, eux, sont très organisés, pèsent davantage, ce qui leur permet de décrocher des postes clés. Et c'est vrai que pour faire avancer les positions françaises, Emmanuel Macron aura besoin de relais au Parlement, d'autant que ses troupes en marche ne siégeront pas dans les deux plus puissants groupes, qui sont le PPE à droite et les socialistes.
Et selon vous, ça peut marcher, cette espèce de PAC France ?
Alors, le souci, c'est que parmi les eurodéputés français, il y aura sans doute beaucoup d'élus du Rassemblement National. Et il ne vous aura pas échappé, Mathieu, qui ne sont pas franchement sur la même ligne que les macronistes. Eh bien, figurez-vous qu'un rendez-vous avec la ministre, après les élections, pour faire le point sur les sujets en cours, au Rassemblement National, on me dit, pourquoi pas ? Car c'est respectable de ne pas traiter les eurodéputés par-dessus la jambe. Ah. Mais le côté comment avoir de l'influence au Parlement européen, là, ça fait un petit peu sourire dans l'opposition. Un élu RN sortant s'en amuse. Je pourrais donner des cours sur l'Europe pour les nuls, car il y aura un paquet de nouveaux arrivants côté français globalement et particulièrement côté marcheur. Un pilier du groupe LR persifle. Je ne sais pas ce qu'elle y connaît. Amélie de Montchalin étant en charge des affaires européennes depuis quelques semaines seulement. Rappelons que c'est la troisième ministre à ce poste en 2 ans. Les eurodéputés sortants, en tout cas, ils expliquent le manque d'influence française par le turnover permanent des élus, quand beaucoup d'Allemands, eux, eh bien vous savez quoi, ils enchaînent 3 mandats, ce qui fait qu'ils connaissent par cœur les rouages du Parlement européen.
Évidemment. Merci beaucoup Aurélie Herbemont pour cette analyse politique. On passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlé. Total mise près de 9 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, puisque c'est 4 fois votre salaire annuel, dans le gaz. Preuve que les énergies fossiles ont toujours un avenir.
Eh bien oui, c'est la triste réalité. Vous savez, on n'arrête pas de parler d'énergie propre, d'éoliennes, de solaire. Mais l'avenir, apparemment, ce sont bien les énergies fossiles, en témoigne donc cette opération de Total, qui s'est associé à un pétrolier américain dans une OPA pour récupérer des champs gaziers en Afrique, donc près de 9 milliards de dollars. Vous l'avez dit, c'est autant que la valeur en bourse d'un groupe comme Veolia ou comme Valeo pardon ou Suez. Alors donc il s'agit pour Total de mettre la main sur l'équivalent de 3 milliards de barils de ressources, même si c'est vrai il s'agit de gaz. Alors le gaz c'est dans la combustion est plus propre, ça veut dire que c'est moins polluant que le pétrole, mais enfin bon ça reste des énergies fossiles, donc c'est autant de CO2 qui vont s'échapper dans l'atmosphère.
Mais alors ça veut dire que la consommation de gaz et de pétrole continue d'augmenter dans
Mais oui, chaque année elle augmente parce que vous avez des populations immenses en Inde et en Chine, qui aspirent à vivre mieux, qui aspirent à avoir des voitures. Alors pendant longtemps, on a cru que en fait, le problème, la solution, ce serait qu'en face, il n'y aurait pas assez de pétrole. Vous vous souvenez, dans les années 70,
oui.
On disait qu'il n'y aura plus que pour 30 ou 40 ans de pétrole. Bah, on s'est trompé.
Ah bon, on trouve toujours des nouveaux...
On trouve toujours des nouvelles réserves. Bah, regardez, là, en Afrique, on trouve des nouvelles réserves de gaz. Et puis surtout, les techniques s'améliorent. Aux États-Unis, la technique du pétrole de schiste fait que d'ici 2024, les Américains vont augmenter leur production de 4 millions de barils jour. C'est l'équivalent de deux fois la consommation annuelle française, vous voyez. C'est ce que les Américains vont produire en plus, l'équivalent de France. Aujourd'hui, la consommation mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Et chaque année, elle augmente, c'est un record. Chaque année, elle augmente de 1 million en plus. Ce sont les prévisions de l'Agence internationale pour l'énergie.
Mais Axel, mais comment va-t-on s'en sortir?
Eh bien écoutez, il faut une rupture technologique. Alors vous savez, il y a cette phrase qu'on sort maintenant, on dit... Figurez-vous, on prend un air inspiré, on dit « L'âge de pierre ne s'est pas terminé, faute de pierre, mon cher...
Effectivement, c'est frappé au bon sens.
De la même façon, l'âge du pétrole ne se terminera pas, faute de pétrole. Il y a toujours du pétrole, simplement, à un moment, le pétrole deviendra ringard parce qu'il y aura eu une avancée technologique qui fait qu'on n'aura plus besoin du pétrole.
Et alors, où en est-on sur l'hydrogène? Pour moi, c'est l'énergie de l'avenir.
Alors voilà, alors maintenant, le débat scientifique est ouvert. Est-ce que ce sera la voiture électrique, la voiture hydrogène? Est-ce que ce sera nucléaire?
Non,
nucléaire. Vous savez qu'il y a à Caradache, à côté de Marseille, on est en train de tester la fusion nucléaire. Alors, ce qui produit une électricité gigantesque avec très peu de déchets. Bon, on est très loin d'arriver à maîtriser. On arrive à la faire exploser, mais on ne maîtrise
alors,
pas.
Prenons notre temps quand même, parce que si on ne maîtrise pas...
Mais voilà, donc c'est la technologie qui permettra de nous ringardiser le pétrole et on a passé l'âge de pierre, de passer l'âge des énergies fossiles.
Mais on l'aura compris, ce n'est pas encore pour demain.
Non.
Merci beaucoup Axel de Tarlet. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour se détendre?
On part en vacances tous ensemble avec Michel Simès et Adriana Carambeu.
Ah bah on va pas pleurer, à mon avis.
Sauf que les vacances, vous allez le voir, vont pas très très bien se passer, qu'on va avoir une succession de petits bobos, vous savez, qui empoisonnent nos voyages régulièrement pendant les vacances. Et bien, l'émission qui est construite à partir de quiz et de tests réalisés auprès des animateurs de France Télévisions va vous permettre d'avoir quelques réponses à ces petits bobos. Par exemple, qui n'a jamais eu le mal de transport dans ce studio? Personne?
Comme le dit Axel.
Alors, question de Michel Simès.
Pour éviter le mal des transports, il faut A. regarder ses pieds, B. compter les moutons, C. prendre rendez-vous chez un kiné, D. souffler dans un sac en papier.
Allez, dites-moi vite une réponse.
Souffler dans un sac en papier.
Et non, pas du tout. Il faut aller chez un kiné. Ça s'appelle de la rééducation vestibulaire. Le vestibule, c'est un petit organe que vous avez dans l'oreille et ça va vous permettre de rétablir en fait votre oreille interne qui vous donne mal au cœur comme ça dans les transports. Alors maintenant, on va imaginer un scénario catastrophe avec un insecte.
Mon enfant avale une guêpe en mangeant, elle le pique dans la gorge.
Non.
Ça me terrorise.
Je dois A. lui surélever les jambes. B. appeler le 15. C. lui faire boire une boisson chaude. D. partir en hurlant.
Appeler le 15, il y a peut-être un truc complémentaire à faire en attendant.
Appeler le 15, évidemment, c'est la première chose
à
faire.
En attendant,
vous appelez le 15 tout de suite.
Ils arrivent vite. Boire une boisson chaude, c'est pas si bête.
Oui, ça peut tuer l'insecte.
Non, ça fait rien du tout. C'était la question que les animateurs ont répondu et pas du tout. Alors imaginons maintenant, vous avez déjeuné les pieds dans l'eau ou non loin de la piscine. L'appel de l'eau devient pressant. Allez, la question, mais récurrente.
Entre le repas et la baignade, je dois attendre. A, 30 minutes. B, 1 heure. C, 2 heures. D, je n'ai pas besoin d'attendre.
On n'a pas besoin.
Attention à l'hydrocution.
Alors, vous pensez quoi, Mathieu?
Maman m'a toujours dit de me mouiller la nuque.
Voilà.
Et d'attendre 2 heures après.
Oui, nos parents aussi.
Allez, 1 heure.
1 heure.
Moi, je suis comme Céline, on n'a pas besoin d'attendre.
Et
on
non,
y va
on n'a pas besoin d'attendre.
Ah bon?
Mais effectivement, il faut se mouiller la nuque. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre, ça n'a rien à voir avec la digestion. Voilà. Mais oui. Et la dernière question, elle vous concerne tous, évidemment. Vous écoutez bien? Vous allez en avoir besoin.
Suite à un dîner bien arrosé, un des invités gît sur le sol, inconscient. Que faites-vous? A, vous le laissez cuver. B, vous faites un selfie avec lui. Ça, c'est si c'est quelqu'un de connu et que vous pouvez négocier. C'est vous tentez de le faire vomir pour diminuer son taux d'alcoolémie, vous le mettez dans la position latérale de sécurité.
Ouais. Alors, position latérale de sécurité. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire un petit selfie.
Voilà, c'est ça.
Avec vous, Eva, j'en ai quelques-uns. C'est une belle collection.
On peut aussi lui dessiner un truc sur la joue.
Exactement.
Non, vous le mettez en position, évidemment, de sécurité. Et c'est une émission très divertissante qui repose sur la personnalité quand même de Michel Simès, comme vous venez de l'entendre, son sens de la répartie. C'est divertissant et informatif grâce à une flopée d'experts qui viennent faire des démonstrations des gestes qui sauvent. Émission de service public et c'est sur France 2 à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Aurélie Herbemont. L'équipe des 3 Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart. Eva, une dernière absurdité pour la route ?
Je pense trop.
Oui, c'est bon de rire.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer la main, mais ne zappez en aucun cas car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Salegas avec aujourd'hui entre autres Laurent Cabrol qui décide d'abandonner l'interface de Météo France pour s'adresser directement à la pluie, d'homme à homme. Une innovation vraiment innovante mais vraiment incompréhensible. Et en bonus, la nouvelle imitation de Nikos, Didier François Bourré.
Mais alors lui, on l'avait arrêté la première fois en Syrie en 2008. Alors c'est vrai que...
Alors comme dirait Céline lorsqu'elle essaye de convaincre son mari de la rejoindre sous la couette.
Et à très vite.
Il est 6h53, bon réveil. Il est 6h54, Mathieu Noël.
C'est toujours avec un pincement au cœur que je vous abandonne chaque matin, mais avec la certitude rassurante que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos qui faisait son retour hier diminué vocalement avec non pas un chat dans la gorge, mais pire.
Une chèvre dans la gorge.
Et oui, pas de bol pour Europe 1. J'étais moi-même un peu grippé, mais comme me l'a dit Nikos, et je le remercie pour sa lucidité.
Au moins, toi, t'as des cheveux.
Oui, lui, en revanche, était hier au sommet de sa forme, mais très remonté contre le temps. Oui, c'est un Lolo Cabrol bougon qu'on a découvert hier matin. Une forme de lassitude était palpable.
15 degrés à Caen, à Paris, à Lyon et à je sais pas quoi que j'ai oublié.
Bon, on s'en fout.
C'était cool.
Non, surtout, après avoir pendant des années repris tous ceux qui se permettaient la formule « il pleut, hélas », sous prétexte que, je cite Lolo, « la pluie est un bienfait pour les nappes phréatiques » et beaucoup d'agriculteurs attendent la pluie avec impatience et donc on ne peut pas dire « hélas, il pleut », Lolo a hier brusquement changé son fusil d'épaule au point même, attitude rare chez un météorologue, d'engueuler la pluie.
C'est un signe annonciateur de la pluie qui sera là demain, parce que demain, malheureusement, il va pleuvoir. Enfin, malheureusement, oui, malheureusement, on en a marre, ras-le-bol.
Allez, tiens, bam ! Et encore, tiens, prends ça, la pluie ! Ah, ça a été radical, il a fait beau pour tout le monde toute la journée. Preuve, une fois de plus, des limites de la méthode Dolto, l'enfant en roi, tout ça, bien joué, mon Lolo. Enfin, j'aimerais revenir sur un des moments forts de la matinale d'hier, la chronique Innovation d'Anissé Mbida. Dès le teaser avant la pub, on a compris qu'on se dirigeait vers un grand moment.
À suivre, l'innovation avec Anissé Mbida ce matin, de la nouveauté dans les panneaux solaires.
Oui, on va avoir des panneaux solaires totalement transparents qu'on pourra substituer à n'importe quelle plaque en verre.
Ça marche pour les lunettes ?
Ça marche pour les lunettes. L'auditeur était comme Nikos, hein, il avait rien compris et il ne comprendrait pas plus à l'issue de la chronique. Mais contrairement à l'auditeur, Nikos, lui, est un professionnel qui plus est présentateur de la matinale. Il n'a donc contractuellement pas le droit de montrer qu'il n'a pas compris. D'où ce bluff magnifique tenté par Nikos après une très longue explication technique d'Anissé.
Alors le principe est assez simple. Plutôt que de mettre les cellules photovoltaïques derrière la vitre, on les met sur le côté, hein, sur la tranche. Ensuite, on ajoute au-dessus un film un petit peu spécial sur le verre. Ce film transparent va rediriger vers la tranche la partie invisible des rayons lumineux, c'est-à-dire les infrarouges, les ultraviolets. Donc toute la lumière visible passe, le verre est totalement transparent et ce sont les rayons invisibles à l'œil nu qui sont convertis en électricité sur la tranche.
C'est malin.
Je ne jouerai jamais au poker avec vous, Nico. Vous êtes trop fort en bluff.
Rien compris.
Mais c'est malin quand même.
Ça avait l'air malin, quoi.
Ça avait l'air, ouais.
Vous observez, vous êtes le mentaliste de la radio, en fait.
Je ne dirais pas jusque-là.
C'est ça, un peu psychologue, très observateur, avec cette plume acerbe mais sympathique. Voilà. Il s'appelle Mathieu Noël. Bonne journée à tous.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.